Bonsoir à tous. Alors, la question générale à laquelle on tente de répondre ce soir, c'est comment la vocation de la femme va s'incarner dans le mode d'être et d'agir féminin. Moi particulièrement, je vais essayer de vous dire quelle est la part de la femme dans la création. Création entendue avec un grand C et un petit C. Et ensuite, on aura Thérèse qui va nous mettre cela en application avec la question du voile qui est très chère à Gertrude Bonnefort et puis de l'habillement qui est très chère à Thérèse. Gertrude Bonnefort, dans ses écrits, se réfère beaucoup à la vocation de la femme. Elle est chrétienne, on l'a vu, catholique sur le tard, les textes sont les mêmes. Elle puise la source de cette vocation dans les textes bibliques, dans la Genèse, mais elle ne le développe pas. Du coup, je l'ai développé pour vous, parce que je me suis dit que c'était vraiment très éclairant. Alors, première chose à savoir, c'est qu'en hébreu, l'homme, c'est Ish, et la femme, c'est Isha. Là, on voit tout de suite qu'il y a une racine commune. On peut donc en déduire que la femme, c'est l'homme avec un grand H en version féminin. Que l'humanité existe sous deux modes, l'un masculin et l'autre féminin. Et quand on sait qu'en fait, dans la Genèse, on ne parle que de hommes et femmes à partir de leur rencontre. Avant, il n'y a pas d'hommes et de femmes, il y a mâle et femelle éventuellement. Il y a Adam tout seul, mais Adam, il n'est pas sexué, c'est... Enfin bon, il n'est pas sexué. Donc on peut interpréter plus encore, c'est que hommes et femmes sont les deux pôles de l'homme avec un grand H, et que l'humanité n'existe pas sans l'union des deux. Et il n'y a pas d'œuvre humaine sans la co-création de l'un avec l'autre. Ça, c'est très important. Et concernant la vocation donc des deux sexes, à l'homme le rôle de réaliser cette humanité, et à la femme celui d'offrir et de préserver les conditions de cette réalisation. Et ça imprègne très fortement le christianisme et la pensée de Gertrude. On aura un thème qui est celui de la coopération qui va être central comme un fil rouge dans tout son livre. Une coopération à une œuvre commune qu'elle va appeler culture. La culture, c'est une vie spirituelle qui est essentiellement, dit-elle, soumise à l'action commune des forces complémentaires qui traversent tout l'univers. Ces forces complémentaires, ce sont le masculin et le féminin, bien sûr. Alors, petite information éclairante, qui vont garder peut-être certains ou même certaines de penser que l'homme est le PDG de l'univers et la femme sa petite secrétaire. Dans le récit de la création, en fait il y a deux récits de la création, un au premier chapitre de la Genèse et un au second chapitre de la Genèse. Ces récits sont distincts, ce n'est pas une suite chronologique. Alors dans le premier chapitre de la création, dans le second, excusez-moi, Dieu donne à Adam une mission et une grave consigne à respecter. Et tout de suite après, Dieu dit « Ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on va lui créer une aide semblable à lui. » Et il y a une traduction de Chouraki, pour ceux qui connaissent, qui a traduit la Bible à partir du sens littéral hébreu, qui dit même « une aide contre lui ». Peut-être qu'il y a un peu d'humour là-dedans, mais en tout cas c'est très fort. Or ce mot « aide »,« ézer » en hébreu, il est utilisé dans l'Ancien Testament lorsqu'il y a une intervention divine pour l'humanité en péril. Par exemple, dans les psaumes, le secours que les hommes demandent 11 fois dans les psaumes, c'est Ézer. C'est « Seigneur, viens à mon aide ». Bon, ben, le Seigneur vient à ton aide, il t'envoie une femme. C'est curieux, hein. Alors, deuxième information. Là, cette fois, dans le premier récit de la création, donc au premier chapitre de la Genèse, Dieu va créer l'humain, mais c'est pas vraiment l'humain encore, parce que le nom, c'est Adam, et Adam, ça vient de la racine hébraïque Adama, qui veut dire « la terre, la glèbe ». Donc Adam, c'est le terreux, en fait. Dieu crée le terreux. À l'image de Dieu, deux points, il le crée mâle et femelle. Ça, c'est intéressant aussi. Et c'est seulement dans le deuxième récit que Adam devient homme et femme, et donc devient aussi humain. Lorsque Dieu, ayant créé pour l'homme une aide semblable à lui, celui-ci s'exclame « C'est la chair de ma chair, c'est pourquoi elle sera appelée femme, Isha. » Donc c'est dans cette relation qu'il y a homme et femme, et c'est en se rencontrant, en étant offerts l'un à l'autre par Dieu, qu'ils deviennent homme et femme l'un pour l'autre, un peu comme quand on se marie et qu'on devient monsieur et madame. Alors de cela, j'imagine la pensée de Gertrude, enfin je ne l'ai pas vue dans son texte, mais bon. Je pense que c'est de là qu'elle déduit que la vocation du féminin, c'est d'être une aide divine pour l'humanité. La femme, elle est celle dont l'action conjointe à celle de l'homme permettra à celui-ci de réaliser sa mission.
J'ai une amie qui a un mot que j'ai trouvé très brillant. Elle est adepte de l'étymologie déraisonnable, certains la connaissent ici. Elle dit que l'homme est en mission et que la femme est en soumission parce qu'elle supporte la mission de l'homme. Alors cette œuvre de coopération et d'aide, Gertrude nous dit que la femme va la réaliser de trois manières, en étant vierge, épouse et mère. Alors dit comme ça, ça peut sembler bizarre, mais c'est à prendre déjà en un sens spirituel. Ça fait que déjà toute femme est vierge, toute femme est épouse, toute femme est mère, selon elle. Et c'est en un sens large, mais cependant, il est vrai que la femme accomplit ça le plus fortement possible en étant réellement vierge, ou en étant réellement épouse, ou en étant réellement mère. Je vais juste aborder deux aspects. Ça va être d'abord l'expression du caractère religieux de la vocation féminine, puisque c'est le fondement de toute la pensée de Gertrude. Et ensuite, je vais davantage parler de la vocation d'épouse, qui est celle de toutes les femmes. Vocation d'épouse, parce que ça rejoint davantage le travail que nous, on a fait dans le mouvement Antigone. Donc je me sentais plus compétente pour parler de ça. Alors, la mission de la femme, elle est fondamentalement religieuse. Ça suppose l'humilité. On va le voir pourquoi. Et lorsque les femmes, dit Gertrude, sont dotées d'un charisme particulier qui les fait sortir de l'ombre, elle dit qu'elles le sont toujours en vertu de leur mission religieuse. Alors d'abord, l'humilité. Dieu interroge la femme, façon de parler, hein, mais il lui dit « Acceptes-tu d'être en ce monde le réceptacle de ma grâce, la gardienne de ma création et le reflet de mon visage ?» Et si la femme répond « oui », elle suit les pas de Marie, qui est la femme par excellence, avec son fiat Miki. Au moment de l'Annonciation, l'ange lui dit « Acceptes-tu de donner vie au Sauveur attendu par les Juifs ?» Et elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Fiat Miki en latin. Là, il y a une citation de Gertrude qui dit « La devise de la femme, qu'il me soit fait selon votre parole, implique l'acceptation de concevoir, en termes religieux, le consentement à la bénédiction de Dieu. » Donc on peut dire qu'en toute femme, il y a une annonciation. C'est-à-dire que Dieu s'annonce à l'humanité, à travers les femmes, que les femmes portent en elles ce Dieu sauveur, quelque part. Et alors, c'est une vocation qui s'oppose humilité, acceptation et effacement, parce que c'est pas possible d'être plein de soi-même pour être rempli de Dieu. La femme, elle se vide d'elle-même, elle se fait berceau pour accueillir la parole de Dieu. Alors Gertrude von Lefort va nous parler des grands destins féminins charismatiques, parce qu'on se dit, d'accord, la femme est humble, mais pourtant il y a bien des grandes figures féminines qui sortent de ce chemin-là. Est-ce qu'elles sont femmes? Elle va dire oui, bien sûr. Et elle va mettre ces grands destins charismatiques féminins en relation avec la vocation de la femme, et comme témoignant de façon éloquente de cette vocation. Bon, comme grand destin, on peut penser à Jeanne d'Arc, c'est celle qui nous saute le plus aux yeux. D'ailleurs, à propos du mot charismatique, c'est un terme qui est d'abord théologique, qui désigne des êtres qui sont dotés de pouvoir, de compétences, données par Dieu en vue du bien commun. C'est ça dans le premier sens. Ensuite, ça va être des personnes qui ont une personnalité extraordinaire, qui rayonnent, une aura incroyable. Et puis ensuite, le charisme aussi de l'artiste qui est inspiré pour produire une œuvre. Mais d'abord, c'est théologique. Alors, Gertrude dit « Le don charismatique n'est pas destiné à donner une force pour mettre en œuvre ses propres projets, mais pour l'anéantissement de la personne jusqu'à devenir l'instrument du Très-Haut. Dans le cas d'une vocation charismatique, il s'agit d'une œuvre qui ne dépend plus de la personne, le charisme lui-même se transformant en voile recouvrant la personne. La raison essentielle pour laquelle la femme a été choisie de préférence à l'homme vient de l'inclination propre à sa nature. Elle est plus disposée à s'anéantir pour devenir un instrument et un vase que Dieu remplira. Porter un charisme, c'est être la servante du Seigneur. » Donc on voit là, avec cette explication, que c'est pas du tout incompatible avec la vocation de la femme, et bien au contraire. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà remarqué, moi je me suis fait cette réflexion, c'est que quand on regarde aussi les apparitions dans le monde chrétien, elles sont majoritairement proposées aux femmes ou à des enfants. Mais il y a assez peu d'hommes, en fait. De cette vocation découle le fait que la femme va agir de façon anonyme, d'après Gertrude. Pourquoi ? Parce qu'elle n'agit pas en son nom, mais au nom de Dieu. Elle signifie la présence et l'action des forces invisibles qui soutiennent ce monde. Et dans la tradition chrétienne, on a coutume de dire que Dieu est un Dieu invisible, un Dieu caché. Bon, ben c'est pareil pour la femme. Gertrude dit « Coopératrice cachée, la femme représente l'anonymat de Dieu. » Et de même que Dieu n'agit avec splendeur que lors des cas désespérés, et bien de même la femme. Gertrude nous dit « La femme entre en scène, cela veut dire que sur un plan plus élevé, la femme est appelée. Elle ne l'est encore une fois que dans les cas exceptionnels, dans les cas désespérés. Et cela comme elle l'est manifestement depuis le commencement du monde. » Si on en revient au texte biblique. Et là, on arrive au thème du voile qui est très cher à Gertrude. Encore une citation d'elle. « Puisque les œuvres de la femme, même charismatiques, gardent le caractère d'une pure coopération, on comprend ce fait mystérieux que les œuvres de la femme, sauf les œuvres charismatiques, n'ont jamais qu'une importance secondaire. La raison n'en est pas que la femme soit moins douée, elle tient à l'essence même des tâches féminines. » Et donc ce voile, qui l'a fortement marqué, j'ai appris ça en voyant des religieuses, elle est symbole de la mission religieuse et cachée de la femme. Donc de cette mission va découler que le mode d'agir de la femme va être celui de la coopération. Une coopération nuptiale, même, dit Gertrude von Lefort. C'est une coopération déjà à l'œuvre de Dieu, évidemment, et ensuite à l'œuvre de l'homme. Et en fait, en coopérant à l'œuvre de l'homme, elle coopère à l'œuvre de Dieu, puisque c'est la volonté divine, en quelque sorte. Alors Gertrude nous dit que la femme qui reste soumise à l'ordre éternel ne peut prétendre qu'à un rôle culturel, celui d'épouse de l'esprit masculin. Alors, c'est pas forcément évident à saisir de prime abord. Un petit éclairage peut-être sur le sens du mot culture. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là, culturel, c'est curieux. Et donc je suis allée chercher à droite à gauche, j'ai trouvé quelques citations, bon, je vais pas forcément vous dire de qui c'est, parce que ça va pas vous parler, puis bon, je connais pas non plus. Alors, les Allemands tendent à opposer civilisation, identifiée à progrès matériel et technique, et culture, conçue comme l'acquis spirituel d'une société donnée. Autre citation de quelqu'un d'autre. Pour nous les Allemands, le symbole idéal de la culture, c'est l'activité créatrice de l'esprit. Pour le français, c'est la préservation et la transmission d'un patrimoine. Voilà, donc faut pas confondre. Et d'après Gertrude, il y a juste un tout petit passage où elle dit ce qu'elle entend par ça, elle dit que c'est une vie spirituelle. Donc, le sens de la phrase qu'on vient d'entendre, si je reprends à partir de cet éclairage, c'est que le rôle de la femme culturelle, ça veut dire qu'il est d'un ordre spirituel, et qu'à ce phénomène de création spirituelle, la femme va participer en tant qu'épouse de l'esprit de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'elle soit épouse ? On va voir la question des épousailles entre l'homme et la femme, et ensuite, le fait précise qu'on parle simplement de la femme comme épouse et pas de l'homme comme époux, chez Gertrude, bien sûr. Alors, par rapport à la question des épousailles de l'homme et de la femme, on a bien sûr l'homme et la femme qui s'accueillent l'un l'autre au moment du mariage, donc ça c'est évident, mais on a aussi les épousailles de l'homme et de la femme qui sont données l'un à l'autre par Dieu au moment de la création. Et d'ailleurs, dans le christianisme, le mariage trouve son fondement à ce moment-là, au moment de la création. Et donc, ce qui est vrai pour le couple, ces épousailles, est vrai aussi pour l'humanité tout entière qui est couple, en fait, dans l'esprit de Gertrude von Lefort. Elle a une citation qui dit que les épousailles donc, de l'homme et de la femme, il s'agit de l'insertion du mystère de la charité dans le domaine de la culture, de l'esprit, du caractère nuptial de la culture. Et chez elle, ça va plus loin que de considérer l'humanité comme résultat de l'épousaille, des épousailles de l'homme et de la femme. Elle parle même de double polarité de l'être. Toutes les époques, dit-elle, toutes les époques vraiment florissantes de la culture se sont appuyées sur les forces issues de la double polarité de l'être, donc le féminin et le masculin. En s'épousant, en fait, hommes et femmes accueillent et bénéficient de la polarité de l'autre. Et c'est cette rencontre qui, d'après Gertrude, va être féconde. Cette double polarité est exprimée de la manière suivante par Gertrude. Et ça, c'est très intéressant. Elle dit « Les aptitudes de l'homme à créer souverainement ne sont, de l'homme petit h, hein, ne sont qu'une part de la réalité créatrice. L'autre part est l'humilité. » Donc l'humilité de la femme qui va recevoir le sens des choses et se tenir là comme une gardienne et comme une guide pour l'homme. Et c'est intéressant de voir qu'on retrouve là des figures traditionnelles, connues, populaires. Par exemple, la figure de la Pythie grecque, c'était l'oracle du temple d'Apollon à Delphes. C'était une vierge qui recevait les messages du dieu qui les donnait aux hommes. Et on a aussi, par exemple, la vieille femme des contes. Je pense au conte Londine de l'étang, où on a une vieille femme qui va dire à une jeune fille éplorée, bah voilà, pour retrouver ton mari, tiens-toi là au moment de la pleine lune, avec ton panier d'or, etc. On a les fées qui vont guider le héros dans sa mission. Donc ça, c'est assez présent, en fait, dans notre culture occidentale. Voilà, maintenant, je voudrais parler de la question de la femme épouse en particulier. Donc c'est la femme qui est épouse de l'esprit masculin, pas l'homme qui est époux de l'esprit féminin. Je me suis demandé pourquoi. Elle n'explique pas trop, en fait. Hein. Mais bon, elle ne parle jamais de l'époux. Alors, bon, le sens des épousailles, c'est quoi? C'est quand deux personnes sont données l'un à l'autre dans le mariage. On parle aussi d'épousailles quand on épouse la condition de son conjoint. La condition, c'est bien sa fortune, sa notoriété, n'importe quoi. Sa pauvreté, même. Épouser quelque chose, c'est aussi le faire sien, embrasser une cause, par exemple. Et donc là, on comprend peut-être un peu plus pourquoi on parle surtout d'épouse, puisque c'est la femme qui épouse la cause de l'homme, cause de l'humanité. Et ensuite, quand on pense à l'épouse, quand on parle d'une épouse, on pense souvent à quelqu'un qui s'offre. Et ça aussi, c'est très féminin, en tout cas chez Gertrude von Lefort. Donc voilà pourquoi on parle plutôt d'épouse et non pas d'époux. Alors, donc, la femme va épouser la cause de l'homme. J'ai une citation de Gertrude là qui est éclairante. Elle dit « Il est manifeste que ce n'est pas la femme, mais l'homme et ses œuvres qui donnent forme à l'histoire. » Et ça choque aujourd'hui. « L'homme ne prend pas seulement les grandes décisions politiques concernant les peuples, c'est de lui aussi que dépendent le développement et le déclin des grandes cultures. » Chaque fois que l'on prête l'oreille à la rumeur des siècles, c'est encore sa voix que l'on perçoit. À quelques exceptions près, la femme ne prend sa place que comme celle qui, dans sa plénitude intemporelle et silencieuse, accompagne les chants masculins. Et ça, dans la perspective de Gertrude von Lefort, ça n'est ni négatif ni injuste. Ce qu'il est, en revanche, c'est de considérer la coopération de la femme comme étant de moindre importance, inférieure, comme étant la coopération d'une subalterne. Gertrude von Lefort, elle va appeler à reconsidérer l'échelle des valeurs. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « La femme est la puissance d'offrande du monde. » Cette puissance d'offrande qui va se traduire par des tâches humbles, par un retrait, par une force invisible, elle est infiniment précieuse. Encore Gertrude, la femme, la plupart du temps, n'exerce pas de collaboration active et cette abstention révèle l'essence même de sa participation. Une participation qui est donc d'ordre religieux. L'élément religieux n'est pas l'impuissance, il est au contraire le ressort caché de toute culture. Encore elle, à propos de la coopération de la femme, il ne peut s'agir d'une variation féminine qui se ferait entendre sur un thème masculin, mais qui resterait un simple accompagnement. Au contraire, cette offrande est pour l'homme une révélation, un présent merveilleux. La femme qui fait à l'homme don de soi, peu importe sous quelle forme, lui apporte en dot la moitié du monde. Et c'est dans cette offrande qui est révélation qu'elle prend part à l'activité créatrice de l'homme dans la culture. Alors, qu'est-ce qu'elle offre, cette femme, à l'homme ? On peut se demander, bon d'accord, elle lui offre la moitié du monde, mais ça consiste en quoi précisément la moitié du monde ? Bon, j'ai essayé de trouver quelques exemples qui sont surtout tirés, en fait, des considérations de Gertrude. Pour le premier, je vous partage une considération personnelle. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes angoissée par la mort, mais moi, oui. Et je me dis que c'est dingue, toute cette énergie, cet enthousiasme, cet élan de vie qu'on dépense, mais surtout qui nous anime, cet élan qui nous fait vivre, et qui est tué, en fait, par la mort, qui se termine par... à quelque chose d'absurde, un néant. Et du coup, Gertrude dit que l'homme va former, transformer l'univers, mais que la femme va lui rappeler que les œuvres humaines ne sont jamais que participation à l'œuvre de Dieu, seul créateur. lui offrant ainsi le sens de ses actions et les sauvant de la corruption attachée à leur caractère temporel. Parce que du coup, c'est sûr que des œuvres purement humaines, ça mène nulle part. Mais en revanche, si on se réfère à une dimension verticale, ça a un sens puisque ce sens est éternel. Donc ça n'est plus absurde. Autre considération, chez Gertrude, l'homme, c'est la personnalité qui va mettre en branle l'univers. C'est de lui dont on retient les grands faits marquants de l'histoire, on en retient le nom, c'est pas de la femme, généralement. Mais la femme, elle, elle va dire que la valeur de la personne se situe au-delà de ses qualités morales, de ses aptitudes physiques, de ses actions. La valeur de la personne, bon ça c'est pas chez Gertrude, mais bon, je pense qu'elle est d'accord avec moi, c'est d'être aimée de toute éternité et d'être destinée à aimer pour l'éternité. Et c'est pour ça, par exemple, que face à la question des personnes en fin de vie, dans un état plus ou moins élégant, on peut se dire, quand on est chrétien, que leur vie a toujours de la valeur, et même une valeur encore plus grande, parce que c'est bien possible qu'elles soient capables d'actes d'amour plus purs dans ces conditions-là, et de recevoir aussi un amour des autres plus pur. Alors, troisième considération, il y en a quatre. L'homme va impulser les choses, il va créer, et la femme va être celle qui garde, qui protège et qui conserve les créations humaines masculines. En tant que mère notamment, la femme, elle est gardienne et protectrice des valeurs spirituelles qu'elle transmet aux enfants. Gertrude von Lefort a un exemple, elle dit que souvent, l'homme va se consumer dans ses actions, il va dépenser toutes ses capacités, toutes ses qualités, tandis que la femme ne va pas forcément les dépenser, elle va les garder pour elle et les transmettre à la génération suivante. Elle dit que quand il y a une qualité très importante chez quelqu'un, chez un peintre par exemple, il faut chercher l'origine de cette qualité chez la mère. Donc voilà, c'est à observer. Et autre chose, ça c'est très intéressant, elle dit « l'homme est un être aux vues droites, tandis que la femme prend soin sous une loi de douceur maternelle. » Autre chose, ça c'est pas chez elle, c'est par exemple dans les théories du Caire, pour ceux qui connaissent, que l'homme, c'est quelqu'un qui sépare. C'est celui qui va définir, qui va nommer les choses, qui va les distinguer, les catégoriser. Tandis que la femme, elle, elle va les mettre en relation. Elle est davantage dans une perspective holiste et dans les relations interpersonnelles. Et là, il y a une très belle citation de Gertrude, moi, qui m'a beaucoup touchée et que je vais partager avec vous. « Au cas où l'homme contesterait à la femme maternelle cette loi de douceur qui est la sienne, à cet homme-là, le monde deviendrait intolérable si jamais la femme cédait. Qu'il accepte au contraire cette loi, même de mauvais gré, il lui devra de pouvoir vivre, il lui devra ce recours, souvent le dernier, à la patience, à la bonté, à l'indulgence, sans quoi l'existence deviendrait un enfer pour l'individu comme pour les peuples. » Et elle dit à un autre endroit aussi que les femmes, ben, en raison de leur propension maternelle, sont enclines à prendre soin de ce qui est petit, ce qui est vulnérable, ce qui est sans défense. Et elle dit qu'aucune femme, donc une vraie femme, parce que je pense que des monstres, ça existe, mais ne serait capable d'abattre un être blessé et sans défense, et qu'elle le protège systématiquement. Et d'ailleurs, c'était pas prévu dans ma conférence, ça, mais cet après-midi, j'étais au colloque Le défi des femmes. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et il y a un couple qui est intervenu, alors pas du tout sur la question qui m'a touchée. C'est qu'en fait, ce couple, c'était une femme, comme vous et moi, valide, et un homme handicapé mental. Et ils sont mariés, en fait. Et je trouve ça très significatif de voir que c'est une femme, en fait, qui épouse cet homme handicapé et pas l'inverse. C'est certainement possible, l'inverse, hein. Je dis pas le contraire. Mais de voir que c'est en tant que mère, en fait, qu'elle a pu épouser cet homme déficient et voir autre chose derrière ses déficiences que de l'incapacité. Et donc ça, je trouve ça vraiment très très beau. J'avais jamais vu ça, je pensais que ça existait que dans Forrest Gump, mais pas en vrai. Donc, bon voilà, pour revenir à la citation de Gertrude von Lefort, on voit qu'il y a une perversion de la culture quand manque l'une ou l'autre moitié de l'humanité. Bon, là, on souligne surtout le manque féminin, mais c'est la même chose avec le manque masculin. D'ailleurs, je pense que ça ferait du bien aux femmes comme aux hommes qu'on parle aussi de l'importance de ce qu'apportent les hommes dans la société. Et ça, cette perversion, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup aujourd'hui. Et Gertrude von Lefort a un mot vraiment, je trouve, très juste pour le décrire. Elle dit qu'on assiste à l'hybris de l'homme qui n'annonce plus que lui-même, c'est l'homme hypertrophié, et à la femme qui a renié son propre symbole. Je trouve ça intéressant déjà parce qu'on n'est plus, entre parenthèses intéressant, parce qu'on n'est plus dans la position victimaire du féminisme qui considère que voilà, l'homme tout-puissant va écraser la femme, pauvre femme, mais c'est aussi la femme qui renie son symbole. Disons que les torts sont partagés et les capacités de renaissance aussi. Alors, une situation de Gertrude encore. La culture exclusivement masculine ne se contente pas, pour caractériser les époques où elle règne, d'exclure tous les traits féminins. Elle substitue à la fois dans les puissances cachées, foi FOI, la confiance en ce qui est visible. Elle privilégie la force dans le domaine de la matière, la propagande dans le domaine de l'esprit. Bien plus dans ce cas, les caractéristiques masculines hypertrophient les traits de l'homme resté seul avec lui-même jusqu'à les défigurer. Et ensuite, ailleurs, elle dit « Le masculin seul ne suffit pas, mais l'humain non plus ne suffit pas. Et l'humain n'est plus humain dans ces conditions, en fait. Sans cette femme qui annonce le divin, il n'y a plus d'humain qui tienne. » J'aime beaucoup cette citation que je viens de vous lire parce que chez les Antigones, on a mené un travail de réflexion pendant 4 ans. On ne savait pas trop où ça allait nous mener. Mais on intuitionne très, très fortement, en tout cas, ce qu'elle dit là. Et en tout cas, à partir de notre travail, je peux vous dire que c'est vraiment très juste. Alors, je voulais prendre un exemple concret pour illustrer ça. C'est celui de l'écologie. La non-viabilité de notre système économique est devenue évidente aujourd'hui en raison du désastre causé à notre environnement, que j'ai envie d'appeler notre maison commune. Pourquoi ? Parce que la racine d'écologie et d'économie, c'est la même, c'est oikos en grec, ça veut dire maison. Et chez nous, en tout cas, Antigone, on analyse ce phénomène comme étant cette hypertrophie des valeurs masculines. C'est pas une dénonciation des valeurs masculines en tant que telles. Que je rassure certains qui pourraient avoir peur. Donc, hypertrophie de ces valeurs, maîtrise, objectivation, domination, transformation, productivité, rentabilité, dépassement, voilà, tout ça c'est masculin, qui vont être séparés, c'est là où est le problème, de leur pendant féminin, soin, sacralité, nature, offrande, préservation, transmission, conscience de la finitude, ça c'est féminin. Cette hypertrophie, elle est à la source des crises majeures qu'on traverse, les crises qui sont économiques et écologiques. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est celle qu'on retient en tout cas en ce moment. Et peut-être que je développerai après ça après, mais pour l'instant, juste vous dire que si, pour la question en tout cas écologique et même économique, les femmes sont les premières victimes de leur démission, et c'est aussi elles qui portent en elles les ressources du renouveau. Tout simplement parce qu'elles incarnent une présence au monde qui va rééquilibrer la présence au monde masculine. Et là, je voudrais illustrer ça par un magazine. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine Kaizen. Non, c'est pas grave. C'est un magazine qui appartient au mouvement de l'agroécologie de Pierre Rabhi. Et ce magazine va traiter de toutes les thématiques qui sont en lien avec la pensée à la source de cette crise écologique. Ces thématiques, ça va être l'éducation, ça va être nos modes de gouvernance, ça va être les relations interpersonnelles, consommer sain, problématiques environnementales et tout ça. Et en fait, un jour dans une conférence, j'ai entendu que 80% des abonnés de ce magazine sont des femmes. Et j'ai trouvé ça significatif. Voilà, je voulais juste vous le dire. Et j'ai presque fini. Une citation de Gertrude, « Rien n'entraîne plus sûrement la décadence de la culture que de la réduire à ce monde sans voir plus loin. Rien n'est plus réducteur pour elle que de la réduire brutalement à un simple processus de progrès matériel. Le paradoxe de la culture est là, une culture qui ne se cherche qu'elle-même, une culture cantonnée à ce monde s'effondre, une culture qui s'assigne un au-delà par rapport à elle-même obtient la consécration d'avoir vaincu le temps » et peut, pour ainsi dire, prendre part à l'éternité. L'homme créateur qui n'honore plus Dieu n'annonce plus que lui-même. Dans sa pratique culturelle, il élimine alors en même temps les valeurs religieuses et les valeurs féminines. Bon, c'est presque la dernière citation de Gertrude. Et j'aime bien cette citation aussi parce que Chez Antigone, en fait, à force de nos réflexions, on a fini par interpréter la crise actuelle comme étant une crise du féminin, pas que, mais en bonne partie. En tout cas, c'est une des clés de lecture. Et du coup, on fait un gros travail de revalorisation de la richesse du regard féminin. Alors, pour conclure, il me semble du coup crucial de retrouver la femme pour sortir de la crise culturelle. Et pour ça, je trouve qu'il faut faire très attention au danger du neutre. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du genre, de l'indifférenciation homme-femme. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que quand on parle de neutre, on neutralise. Et quand on neutralise, on stérilise l'action qu'on aurait dû avoir sur la société. Bon, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, on la stérilise. Et autre point que je voulais souligner aussi en conclusion, c'est de l'importance de se situer à un niveau spirituel pour envisager les questions qui sont soulevées par le féminisme et qui sont très pertinentes, et pour envisager la crise qu'on traverse, parce qu'il y a certaines affirmations qu'on a entendues là chez Gertrude, qui sont inacceptables quelque part sur un plan social, mais qui le sont sur un plan spirituel. Je vais par exemple penser à la question du voile. Aujourd'hui, ce voile n'est vu que comme un signe d'humiliation et d'abaissement, tandis que si on le prend d'un point de vue religieux, eh ben c'est magnifique. Moi, je me dis que j'aimerais bien vivre dans une époque et pouvoir porter le voile. Voilà. Alors, dernière citation de Gertrude, et puis j'ai définitivement fini, qui résume en fait le rôle de la femme, le sens du couple et de l'humanité qui est duel. En fait, elle va parler de l'œuvre de Dante. Et elle dit que la femme est une signification religieuse, c'est aussi ce que Dante pense dans ce passage merveilleux de son poème, où il contemple Béatrice, dont le regard reste dirigé vers Dieu sans pouvoir s'en détacher. Dante ne voit pas ici le divin dans la femme, mais il voit Dieu, parce que la femme contemple Dieu. Ici, la signification religieuse de la femme et en même temps la signification religieuse de l'amour de l'homme pour la femme sont enfin reconnues et représentées dans leur profondeur ultime. Je trouvais ça très beau. Voilà, je vous remercie.